Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de notre programme. Nouvelle nuit tranquille au Djemeli pour le pape François, selon les informations données dans la matinée du vendredi 14 mars par la salle de presse du Saint-Siège. Le pape qui poursuit sa thérapie et sa situation clinique reste stationnaire dans un tableau complexe. Dans la matinée du vendredi, le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin a présidé à 10h30 une messe pour le pape dans la chapelle Pauline du palais apostolique, en présence du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Nous en parlerons dans l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi en République démocratique du Congo où, dans un communiqué rendu public jeudi 13 mars, les églises catholiques et protestantes de ce pays saluent le début des négociations de paix directes entre Kinshasa et les M23 alors que les combats se poursuivent à l'est de la RDC. L'actualité sociopolitique sur le continent nous conduira entre autres au Bénin et au Soudan avant d'accorder la parole au père Donald Zagoré, prêtre analyste politique ivoirien, et nous conclurons l'édition de notre programme avec notre magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine. Ce sera tout pour les titres, les détails dans un instant dans cette édition que nous émettons depuis la cité du Vatican.
À Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Nouvelle nuit tranquille au Djemeli pour le pape François, selon les informations données dans la matinée du vendredi 14 mars par la salle de presse du Saint-Siège. La situation clinique du souverain pontife, hospitalisé depuis le 14 février à l'hôpital Djemeli de Rome en raison d'une pneumonie bilatérale, reste stationnaire dans un tableau complexe. Le pape François a suivi par vidéo la conclusion des exercices spirituels dirigés par le père capucin Roberto Pasolini dans la salle Paul VI du Vatican. Il a poursuivi dans la matinée du vendredi les thérapies prescrites, y compris la physiothérapie motrice. Il a également continué à alterner entre la ventilation mécanique non invasive la nuit et l'oxygénation à haut débit avec des canules nasales utilisées pendant la journée. Et les membres du corps diplomatique près le Saint-Siège ont prié dans la matinée du vendredi dans la chapelle Pauline du palais apostolique pour l'intercession du pape François. Lors de la messe célébrée par le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin a appelé les participants à ouvrir leur cœur à la parole du Seigneur. On l'écoute.
Ci riuniamo in preghiera questa mattina per l'intenzione della salute del Santo Padre.
Nous nous réunissons ce matin pour prier pour la santé du Saint-Père afin qu'il se rétablisse et revienne bientôt parmi nous. Nous pensons également, puisque nous sommes le lendemain au 12e anniversaire de son élection au pontificat que nous avons célébré hier. Notre prière devient donc encore plus intense et plus vive. Et en quoi consiste principalement cette prière?
In che cosa consiste principalmente questa preghiera? Non si tratta tanto.
Il ne s'agit pas de faire une demande à Dieu, car il sait ce dont nous avons besoin. La meilleure façon de présenter nos prières à Dieu est, avant tout, de lui offrir un cœur. Notre cœur, ouvert et attentif à ses paroles. C'est la clé qui ouvre le cœur du Seigneur, l'écoute cordiale de sa parole.
Après 5 jours de prière et de méditation, les membres de la curie romaine ont achevé leurs exercices spirituels vendredi. Du 9 au 14 mars en effet, les participants ont été nourris par le père Roberto Pasolini, prédicateur de la maison pontificale en salle Paul VI du Vatican. Dans sa 10e et dernière méditation, le prêtre capucin a invité les participants à offrir à Dieu leur vie et à recevoir en retour le Christ lui-même qui nous transforme dans son amour. Au terme de sa prédication, le père Pasolini a adressé ses remerciements à tous les participants à ces journées d'exercice spirituel, spécialement au Saint-Père qui, de la polyclinique Djemeli de Rome, a été en communion spirituelle avec chacun d'eux. Suivant les précisions de Françoise Niamia.
La vie, avec ses beautés et ses difficultés, nous pose une question cruciale. À quoi sert notre errance en ce monde quand tout est destiné à finir? Et c'est avec ces mots que le père Pasolini a introduit sa 10e et dernière méditation en salle Paul VI. En effet, a-t-il souligné devant les membres de la curie romaine, sans espérance en éternité, le poids de la réalité peut nous écraser ou nous rendre cyniques, nous poussant à la résignation. En dépit de notre humanité marquée par le déclin physique, le prédicateur de la maison pontificale a fait savoir qu'il y a un renouvellement intérieur qui s'impose jour après jour. Ainsi, tout ce que nous vivons, joie, peine, succès et échec, fait partie d'une transformation continue, semblable à celle d'une graine qui, en mourant, engendre une vie nouvelle. Et cette transformation n'est pas seulement future, elle commence déjà maintenant, a ajouté le prêtre capucin, précisant que dans l'Eucharistie, un échange mystérieux a lieu. Nous offrons à Dieu notre vie et recevons en retour le Christ lui-même qui nous transforme dans son amour. Il ne s'agit donc pas d'un rite symbolique, mais un véritable processus de transformation de notre personne qui nous fait participer à la vie éternelle dès le présent, a souligné le père Pasolini. Au terme de cette 10e méditation, le prédicateur de la maison pontificale a adressé ses remerciements à tous les membres de la curie romaine pour leur participation à ces journées d'exercice spirituel, particulièrement au pape François qui, de l'hôpital Giammelli, a été en communion spirituelle avec chacun d'eux. Prions les uns pour les autres, afin que les paroles que nous avons entendues ces jours-ci restent dans nos cœurs et nous accompagnent vers la vie éternelle, a conclu le prêtre capucin.
Merci Françoise. Rappelons aussi que la prière du rosaire pour la santé du pape François se poursuit à Rome. Au terme des exercices spirituels de la curie romaine, la prière sera présidée sur la place Saint-Pierre dans la soirée du vendredi à 19h30 par Mgr Lucio Adrian Luis, secrétaire du dicastère pour la communication. Dans un communiqué rendu public jeudi 13 mars, les églises catholiques et protestantes de la RDC saluent le début des négociations de paix directe entre Kinshasa et les M23 alors que les combats se poursuivent à l'est du pays. Les deux églises encouragent donc les acteurs concernés à saisir la main tendue du président angolais João Lourenço, à s'investir sincèrement dans ce processus des négociations de paix dans un esprit constructif. Les précisions de Fabrice Baguendekere.
C'est en réaction au communiqué de la présidence angolaise, principal médiateur dans les conflits qui opposent la République démocratique du Congo à différents groupes étatiques et non étatiques engagés à l'est du pays, annonçant le début des négociations de paix directes entre Kinshasa et les M23 que les deux églises envoient ces mots. Ils saluent et affirment leur soutien à João Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine pour les efforts déployés en vue de l'avènement de la paix en RDC et dans les Grands Lacs, une vision qui coïncide avec le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs, initiative commune aux deux églises pour une paix durable dans leur pays et dans toute la sous-région. Les évêques et pasteurs invitent tous les acteurs concernés à saisir la main tendue de Son Excellence Monsieur le Président João Manuel Gonçalves Lourenço à s'investir sincèrement dans ce processus de négociation de paix dans un esprit constructif. Ils félicitent par la même occasion le Président de la République démocratique du Congo pour son esprit de dépassement, priorisant les voies et moyens pacifiques de règlement de ce conflit, encourageant aussi les chefs d'État de la SADC et de l'EAC à soutenir pleinement les processus de dialogue direct initiés par Lourenço.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le président béninois Patrice Talon a affirmé vendredi qu'il ne serait pas candidat à un troisième mandat, interdit par la Constitution, tout en affirmant rester attentif quant au choix de son successeur. Il l'a déclaré une énième fois dans un entretien aux médias Jeune Afrique, soulignant qu'il a renforcé lui-même la Constitution pour stipuler que nul ne pourra exercer plus de deux mandats dans sa vie. Patrice Talon est à la tête du Bénin depuis 2016 et arrivera en 2026 au terme de son second mandat. La question de sa succession a été relancée en septembre 2024 lorsqu'un de ses amis intimes, Olivier Boko, a été arrêté pour tentative de coup d'État avec l'ex-ministre des Sports, Oswad Omeki. Les deux hommes ont été condamnés en janvier à 20 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État, notamment. 6 personnes, dont un enfant, ont été tuées dans le bombardement par les forces de soutien rapide, FSR, d'une ville stratégique du sud du Soudan, quelques semaines seulement après que l'armée a brisé un siège imposé par les paramilitaires, selon une source médicale, vendredi. Elle obéit de capitale de l'État du Kordofan Nord, dans le sud du Soudan, subit depuis 8 jours des bombardements des paramilitaires des FSR en guerre contre l'armée depuis avril 2023. En Éthiopie, au moins 31 personnes sont mortes du choléra et plus de 1500 cas ont été signalés dans l'ouest du pays où la maladie se propage rapidement, a affirmé vendredi Médecins sans frontières. La situation dans l'ouest de l'Éthiopie est aggravée par l'arrivée des personnes qui fuient les violences au Soudan du Sud et traversent la frontière en quête des soins médicaux d'urgence, a ajouté l'ONG. L'élection présidentielle ivoirienne est prévue pour se dérouler le 25 octobre 2025. À 7 mois de ce scrutin, de l'avis du père Donald Zagoré, prêtre analyste politique ivoirien, une élection inclusive s'impose à la Côte d'Ivoire. Suivons à ce propos le père Donald Zagoré.
Le problème en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à tirer toutes les conséquences de notre histoire. On se rend compte qu'on est toujours soumis au même problème. Le premier problème, c'est l'exclusion. On n'a jamais travaillé pour des élections inclusives permettant à tout le monde de participer de manière libre. C'est un droit. Aller à une élection, c'est un droit. Chaque citoyen est libre d'être candidat s'il remplit les conditions. Mais on s'arrange pour que des candidats soient exclus. Donc l'exclusion n'aide pas d'abord. Toutes les tensions qui arrivent, ce sont des tensions qui se sont basées sur l'exclusion. Et on s'achemine vers une élection qui n'est pas inclusive. Et c'est ça d'abord qui est le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'indépendance des institutions qui organisent nos élections. Quand vous regardez ce qui s'est passé au Sénégal, qu'est-ce qui a sauvé la démocratie au Sénégal? Mais c'est l'indépendance des institutions, que ce soit la commission électorale ou que ce soit le conseil constitutionnel. C'est parce qu'ils ont été indépendants vis-à-vis du pouvoir qu'ils ont pu dire le droit et défendre la justice et la vérité. C'est le même cas au Ghana. Mais nous, on est dans un système où parfois... nos institutions chargées d'organiser les élections ne donnent pas l'impression d'être des institutions indépendantes. Quand la confiance est brisée en ces institutions et que tout est mis en œuvre pour que tout le monde n'ait pas le droit de participer aux élections, vous voulez quoi? Les populations, parce que les populations veulent voir les candidats aux élections. Ils veulent que la vérité des unes soit proclamée. On est tout le temps dans des calculs, dans des actions qui n'aident pas à aller de l'avant. Donc 2025 s'annonce avec une météo qui est sombre. Et moi, ça me fait peur, comme beaucoup d'Ivoiriens.
Justement, les évêques ivoiriens, au thème de leur 126e assemblée plénière, ont appelé à des élections crédibles et inclusives. Aussi, ils ont invité les Ivoiriens à se tourner vers Dieu par la prière et le jeûne. Pouvons-nous espérer des élections paisibles en cette année d'espérance?
Je salue ce message de nos pères. Ils sont dans leur rôle et c'est courageux. Voilà, de toucher, voilà, le problème. Parce que le problème, comme je l'ai dit, c'est un problème de permettre un système électoral inclusif. Et ça, ils ont été courageux de le dire. Allons vers des élections inclusives. Permettez à tout le monde d'être candidat et respectez le résultat des urnes. C'est tout. Voilà. Donc, les évêques sont dans leur rôle. Ils vont continuer à sensibiliser. Ils vont continuer à parler. Ils vont continuer à appeler le peuple à la prière parce qu'il faut pas oublier qu'il faut que la main de Dieu s'élève pour nous sauver parfois. Quand l'homme n'est pas capable, il faut que Dieu quand même aussi intervienne pour que la libération des cœurs et la guérison des cœurs puissent permettre au renouveau de l'homme dans toutes ces dynamiques afin de pouvoir construire une société meilleure. Alors, donc les évêques sont dans leur rôle et nous félicitons nos pères évêques. Nous ne pouvons que prier pour eux et puis continuer à les inviter à continuer à parler, à continuer à faire entendre leur voix parce que chaque fois qu'ils prennent la parole, c'est beaucoup d'espérance qui naît dans le cœur de ces millions de personnes qui attendent que voilà, des hommes de leur rang s'impliquent davantage dans la vie courante et dans la vie sociale.
Vous venez de suivre le père Donald Zagoré, prêtre analyste politique ivoirien, interrogé par Françoise Niamia. Refermons à présent cette édition avec notre magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine. Parole à Marie-Josée Moindo.
Commençons cette page dédiée à l'actualité internationale de la semaine par l'arrestation de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte pour crime contre l'humanité. Le vendredi 14 mars marquait la première comparution de l'ancien président philippin devant la Cour pénale internationale pour répondre de crimes contre l'humanité présumés pendant sa guerre contre la drogue qui a fait des milliers de morts. Sonnette d'alarme suite au licenciement voulu par l'administration Trump aux États-Unis d'Amérique, Les détails avec Loïc Loury.
Un prétexte destiné à contourner des obligations légales, c'est ainsi qu'un juge californien décrit le motif du licenciement de dizaines de milliers de fonctionnaires, des employés du Trésor, de l'agriculture ou de la défense, limogés pour de prétendues mauvaises performances. Il est triste, dit le magistrat, de renvoyer de bons employés sur la base d'un mensonge, une décision conséquente et un coup d'arrêt sur le papier au moins aux efforts de purge menés par l'administration. Trump. Ce jugement, toutefois, n'est pas une fin en soi, il pourrait être cassé en appel, et la justice, par ailleurs, stipule que les agences fédérales ont toute autorité pour réduire leurs effectifs, à condition de suivre les règles. L'affaire n'en illustre pas moins la résistance légale qui s'est organisée face à la volonté du nouveau président de démanteler le gouvernement fédéral, et alors que l'opposition politique, elle, peine toujours à se faire entendre. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Le président américain Donald Trump a reçu jeudi 13 mars le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Ce sommet a eu lieu à un moment délicat pour l'Alliance Atlantique, notamment le conflit en Ukraine. Face aux remises en cause de l'engagement américain en Europe depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, en particulier en Ukraine, la Commission européenne a pour sa part dévoilé un plan destiné à mobiliser 800 milliards d'euros pour l'armement. La Commission européenne a également proposé aux pays membres de déroger aux règles d'orthodoxie budgétaire de l'Union européenne pour financer leurs dépenses de défense. Le Comité international de la Croix-Rouge s'est dit jeudi très inquiet face au contexte européen de réarmement après le retrait de la Lituanie de la Convention interdisant les bombes à sous-munitions et les discussions en Pologne sur le traité sur les mines antipersonnelles. Les conclusions d'une enquête menée par une commission des Nations Unies publiée jeudi affirment que les attaques systématiques d'Israël contre la santé reproductive à Gaza sont des actes génocidaires. Ces conclusions sont qualifiées de fausses et absurdes par le premier ministre israélien Valérie Ferrand.
Ce rapport dénonce principalement les bombardements et le siège imposé à la bande de Gaza par Israël. La destruction du secteur de la santé a par exemple empêché les femmes enceintes d'être suivies pendant leur grossesse et d'accoucher dans de bonnes conditions, sans compter qu'un nombre important de médecins ont été tués ou arrêtés par l'armée israélienne. Le siège a accentué leur souffrance. Par exemple, le refus d'Israël de laisser entrer des produits anesthésiants a obligé beaucoup de femmes à subir des césariennes sans anesthésie. La malnutrition et la famine ont affaibli la santé des mères et donc des nourrissons, les mamans ne pouvant plus allaiter alors que les laits maternisés ainsi que les couches étaient introuvables ou trop chers. Le rapport prend également en compte les humiliations et les sévices sexuels subis par des milliers de civils, notamment le fait de devoir se mettre nu en public lors des vagues d'arrestations massives effectuées dans la bande de Gaza par l'armée israélienne. Autant de faits qui font partie des critères retenus pour parler de génocide et qui donc s'appliquent ici dans le cas palestinien. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Au Canada, le Parti libéral a choisi Marc Carney comme premier ministre du pays. L'ancien gouverneur de la Banque centrale a remporté l'élection avec 85,9% des voix. Le Canada, pays hôte du G7, a appelé jeudi à soutenir l'Ukraine contre l'agression russe. Les ministres des Affaires étrangères du G7 sont réunis pour 3 jours des discussions à Charlevoix, au Québec. L'Ukraine est le sujet numéro 1 de ce sommet multilatéral 2 jours après le feu vert de Kiev à la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours, plus de 3 ans après l'invasion russe. Les discussions sont compliquées par le niveau de tension entre les États-Unis et le reste du G7, notamment en raison de la guerre commerciale lancée par le président américain depuis son retour à la Maison-Blanche.
Merci, Marie-Josée.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici, très chers auditeurs, que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambé qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.